Georges Hugeux était l'un des patrons du New York Stock Exchange, la bourse de New York. Il est à présent à la tête d'un consortium de conseil au gouvernement. Georges Hugeux vient nous parler non seulement de la situation économique mondiale, mais surtout de la faillite des grands systèmes de crypto auxquels on a assisté en cette fin d'année. De quoi est-ce le signal? Il nous en donne les clés.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Cryptos are not currencies. Full stop. Cryptos are highly speculative assets that claim their fame as currency, possibly, but they're not. They are not.
C'est la chute d'une icône. À seulement 30 ans, Sam Bankman-Fried était multimilliardaire. Mais vendredi, il a tout perdu. Personne ne l'avait vu venir et surtout pas aussi rapidement. Jean-Luc Verest est formateur et spécialiste en crypto-monnaie.
Il avait une aura quand même comme étant une des personnes les plus riches dans le monde de la crypto. Un succès fulgurant, très rapide. Il avait d'ailleurs même financé la campagne de Joe Biden à l'époque. Et il avait très vite acquis un statut comme étant une personne plutôt de confiance par une majorité de personnes.
Des 32 milliards accumulés en janvier, il ne reste plus rien. La société FTX a commis plusieurs erreurs, a commencé par investir avec la monnaie qu'elle a elle-même créée. Le problème, c'est que quand la valeur de cette monnaie dégringole, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Alors, quel avenir pour les crypto-monnaies? Est-ce que les personnes qui ont placé leur argent chez FTX doivent s'inquiéter?
Depuis des années, on dit très clairement qu'il faut avoir ces crypto-monnaies en sa propre possession et ne pas dépendre d'un intermédiaire de confiance comme une plateforme. Là, les gens qui avaient laissé leur argent sur cette plateforme-là apprennent la leçon d'une façon très difficile parce que tout simplement, ils n'ont plus accès à leurs fonds.
Sam Bankman-Fried a été placé sous la surveillance des autorités du Bahamas où il réside. Une enquête cherche à déterminer si des faits de nature criminelle ont eu lieu.
Pour le moment, c'est vrai que c'est encore tout à fait limité le taux d'utilisation et c'est plutôt une partie qui est très enclin à utiliser les nouvelles technologies. Maintenant, je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance. Je ne vais pas vous dire si c'est les monnaies actuelles qui seront celles qui seront le plus utilisées, parce qu'il y a des avancées technologiques chaque semaine, des nouvelles monnaies qui ont un avantage nouveau chaque semaine. Donc c'est possible que ce ne soit pas celle actuelle, mais je pense qu'il y aura bien une ou quelques crypto-monnaies qui seront utilisées à grande échelle.
Celui qui veut investir dans les cryptos, c'est plutôt celui qui fait vraiment un pari spéculatif. Et donc ça élimine déjà toute une série de gens qui ne veulent pas de tels paris spéculatifs. Par contre, on sait bien qu'il y a toute une série de gens qui sont plus spéculateurs ou qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont déjà un bon portefeuille et qui se disent « je peux tenter le pari à titre de diversification ». S'ils se trompent, bah, ils perdront leur mise, mais si c'est une toute petite partie de leur portefeuille, ce n'est pas très grave. Et si leur pari est gagnant, bah, ils auront fait la bonne affaire.
Pour un investisseur lambda, quelle est la meilleure solution? Ouvrir d'emblée un compte auprès d'une plateforme spécialisée dans les cryptos ou bien faut-il commencer par tâter le marché en achetant par exemple en bourse cette fois, des fonds de placement spécialisés dans les cryptos. C'est quoi votre conseil?
Pour quelqu'un qui n'y connaît rien dans le monde des cryptos, et je crois que c'est la majorité des gens, hein, le plus facile, effectivement, c'est de passer par un ETF qui est coté en bourse. Donc un ETF, c'est une sorte de fonds de placement. Mais cette fois-ci, il ne va pas investir en actions ou en obligations comme la plupart des fonds de placement le font, mais il va investir dans un panier de crypto-monnaies. Donc le Bitcoin, par exemple, l'Ethereum et encore d'autres cryptos.
Bonsoir, Georges Hugeux.
Bonsoir, Eddie Kakelberg.
Alors, la situation économique n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire, on va y revenir. Ce qui a beaucoup inquiété aussi la fin de l'année, peut-être le début ici, c'est le crash dans le domaine des cryptos. Est-ce qu'on est face à une grande crise crypto, notamment évidemment avec la disparition subite, certains disent l'arnaque subite que l'on a connue en fin d'année avec l'écroulement d'un des géants de la crypto?
Écoutez, je vais éviter les mots qui fâchent et je vais tâcher d'expliquer ce qui s'est passé. Les cryptos ont perdu 80% de leur valeur au cours de l'année 2022. Les plateformes qui font du négoce de crypto se sont endettées, Binance, FTX et d'autres, pour une série de raisons. Ces emprunts étaient garantis par la mise en gage de cryptos qui ont perdu de la valeur et les banques, bien naturellement, sont revenues vis-à-vis de ces plateformes pour leur dire, chers amis, vous n'avez plus assez de mise en gage, donnez-moi d'autres cryptos pour que je puisse continuer à payer ou remboursez-moi. Alors, pour rester sur FTX, qui est le cas le plus connu, il y en avait pour 9 milliards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour couvrir ces risques, la seule façon dont M. Sam Bankman-Fried pouvait agir, c'était de transférer les cryptos qui appartenaient à ses clients à l'entité qui était endettée. Et c'est une pratique qui est pénalement punissable parce que quand vous mettez des titres ou d'autres éléments auprès d'une banque en dépôt, vous gardez la propriété et la banque ne peut pas l'utiliser à son propre usage. Et donc, je dirais, c'est ça le cœur de ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est la combinaison de la perte de valeur et de confiance dans le crypto à cause d'autres éléments qui étaient apparus au fil du temps et du surendettement d'une série d'opérateurs. Et donc, nous avons Genesis, nous avons Celsius, nous avons maintenant 4 ou 5 faillites en route et peut-être plus qui vont venir. Et donc, tout cela représente effectivement la confirmation que la structure de négoce des cryptos, qui n'était pas réglementée, puisque ce ne sont pas vraiment des bourses au sens réglementé du terme, ces structures se sont effondrées.
On est dans ce que vous nous décrivez aux limites, bien dépassées d'ailleurs, de la cavalerie et du détournement d'actifs privés ou publics. Qu'est-ce qui va se passer à court terme? Ça veut dire que les clients qui ont été ainsi spoliés se retrouvent tout nus?
Alors, ce qui se passe pour le moment, effectivement, c'est que puisque nous sommes donc en période de faillite, puisque FTX est en faillite, il y a donc maintenant un spécialiste qui essaye de rassembler tout ce qui peut encore exister de valable par rapport à ses clients fraudés et par rapport aux banques prêteuses qui, effectivement, ne retrouveront pas leur argent non plus. Donc, c'est le cas classique où on doit d'abord rassembler les actifs. On sait qu'il y a environ 1 milliard de cash, mais ça ne va certainement pas permettre de servir beaucoup. Et donc, une série de cabinets d'avocats maintenant se sont lancés dans ce qu'on appelle des class actions, c'est-à-dire des actions qui permettent à tout qui a été lésé dans un domaine ou dans ce domaine-là de se joindre aux autres pour attaquer les structures et les personnes.
On a connu, dans un passé pas si lointain, le problème lié à la personne de Bernard Madoff et à une pyramide de Ponzi. Est-ce que FTX, Binance et d'autres pratiquent quelque chose de similaire?
Ce n'est pas tout à fait similaire dans la mesure où M. Madoff faisait soi-disant des investissements qu'il ne faisait pas et donc il n'y avait rien derrière. Ici, il y a des bitcoins maintenant. Personnellement, je considère qu'il n'y a rien derrière les bitcoins. Mais ça, c'est une question d'opinion et chacun est libre de l'avoir. Mais il y a quand même quelque chose. Mais leur réalité, c'est qu'effectivement, le bitcoin lui-même, et ça, je l'ai écrit depuis 2014, est une pyramide de Ponzi.
Cette cryptosphère, on va l'appeler comme telle, se caractérise, vous le rappelez dans bon nombre d'articles, par un manque de transparence, dites-vous. Et c'est le cas d'FTX. Mais c'est le cas aussi, effectivement, de Binance. Et vous nous citiez les chiffres à propos d'FTX, mais Binance, c'est encore plus vertigineux. Vous dites que ce sont des transactions qui ont traité d'une valeur de plus de 22 000 milliards de dollars l'année passée.
Oui, ça, c'est les transactions, donc ça ne fait pas tellement peur, mais je dirais qu'en termes d'actifs, c'est beaucoup plus gros. Je ne vois pas personnellement comment Binance évitera la culbute, ou en tout cas, une faillite pour liquider les actifs de manière ordinaire, parce que Binance aussi a fait un certain nombre de choses qui la fragilisent. La différence par rapport à FTX, c'est que dès qu'FTX avait de l'argent, ils achetaient des start-up et des grosses maisons aux Bahamas et des tas de trucs. Donc il y a un côté beaucoup plus frauduleux dans le fonctionnement de FTX que dans le fonctionnement de Binance. Mais je ne suis pas sûr que la pyramide tienne. Et j'ai regardé les déclarations du patron, on l'appelle ZB, je crois, si je m'abuse, ou BZ, de Binance, et je peux vous assurer qu'elle se caractéristique par un flou artistique. Il n'y a pas un chiffre qui nous permette de nous rassurer.
Oui, d'autant que on rappelle que son fondateur est donc chinois. Il a quitté la Chine, en tout cas l'entreprise a quitté la Chine ou peu après sa création en 2017 à Shanghai parce qu'elle n'aimait pas trop le système. Elle a déménagé vers les Caraïbes. Tout ça n'augure pas de grande facilité pour les clients de récupérer des biens qui sont dans des paradis fiscaux.
Exactement. Et donc la question que l'on pose aujourd'hui et qu'il faut se poser, et je dirais, je vais essayer de le dire avec un peu de sobriété, il y a 14 ans que nous avons regardé la cryptosphère se développer jusqu'à atteindre des milliers de milliards de dollars sans agir, sans réglementer, sans taxer et sans défendre ce qui est la fonction fondamentale des autorités de contrôle et de régulation, sans protéger les investisseurs qui ont été bombardés par un marketing complètement fallacieux, dans lequel on prétendait une série de choses qui étaient fausses. Et donc, nous devons maintenant nous poser la question, comment, dans un monde aussi sophistiqué, dans lequel beaucoup de choses sont réglementées, comment les régulateurs sont-ils restés les bras croisés pendant, j'allais dire, 14 ans ? Ils ont commencé à vraiment les réglementer en 2022, et c'est d'ailleurs l'Europe qui a sorti la première réglementation dans ce domaine l'année dernière. On pense qu'on va avoir quelque chose des États-Unis cette année-ci. L'Angleterre est déjà sortie et les Japonais y travaillent.
Oui, mais dans la mesure où on annonçait à la fois, mais on constatait aussi, notamment à travers bien sûr le Bitcoin ou Ethereum, que certains et certaines qui avaient investi au tout début se retrouvaient avec évidemment des bénéfices gigantesques, plantureux. Tout le monde a en tête ces millionnaires du Bitcoin. C'était alléchant.
C'est le propre de la pyramide de Ponzi. Quand vous êtes au début de la pyramide, vous faites beaucoup d'argent. Quand vous êtes à la fin de la pyramide, vous perdez tout.
Dans l'actualité la plus récente, lorsque l'on parle de Elon Musk, de son rachat de Twitter, de la twittosphère, etc., beaucoup disent son fameux projet X, c'est effectivement une liaison directe entre la cryptosphère, le blockchain et ce qui se profilerait comme le plus grand réseau social imparable. Vous y croyez ?
Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un conflit ouvert entre tous les défenseurs de la métaverse, des médias sociaux, etc., et les autorités de régulation qui ont été soit craintives, soit naïves, soit les deux, mais qui maintenant sont occupés à reprendre le problème en main parce que le métaverse, qui est une fiction, un concept, essaye de créer un monde virtuel dans lequel on peut s'enrichir parce qu'on n'est pas réglementé, ce qui n'est pas acceptable. Donc, il y a tout un mouvement qui va devoir se faire. On doit réagir aujourd'hui et les réactions ont commencé.
En termes de réserves, Georges, vous l'avez dit, les clients vont se retrouver tout nus. Pourquoi ? Parce que les réserves sont volatiles, les réserves n'existent pas ou les réserves sont planquées ?
Non, parce que les réserves ont baissé de prix. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont perdu sur le Bitcoin et à la limite, ils ne vont retrouver qu'une partie de leur Bitcoin. Donc, c'est vraiment puni deux fois. L'un, c'est un phénomène de marché, l'autre, c'est une fraude.
C'est un challenge entre les droits régaliens des puissances qui peuvent battre monnaie et cette sphère-là, ça dit quelque chose de la défiance aussi à l'égard des institutions classiques qui, au minimum depuis 2007-2008, sont quand même très décrédibilisées.
Je crois que le fond du problème est celui que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a une gigantesque crise de confiance que j'espère. C'est que la crise que rencontre la cryptosphère pour le moment va réveiller un certain nombre de gens qui étaient, eux, convaincus qu'ils avaient affaire au plus grand génie de l'humanité et qui sont en train de se rendre compte qu'ils se sont enrichis d'une manière frauduleuse. Donc, il y a maintenant une prise de conscience qui, à mon avis, est extrêmement salutaire, de se dire que peut-être il faut quand même regarder de plus près et que ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon.
Est-ce que l'on peut imaginer, vous qui connaissez les deux rives de l'Atlantique et même au-delà, est-ce que l'on peut imaginer une réglementation commune ? Vous l'avez dit, l'Europe a pris quelques pas, vous nous disiez le Japon y songe, les États-Unis, l'Angleterre sort du bois, et les États-Unis peut-être dans l'année qui vient. Mais ce qui a toujours fait le plus, c'est quand il y avait des réglementations communes sur l'ensemble des marchés. Est-ce que ce sera le cas ?
Le Fonds monétaire international, depuis 2 ans, demande aux régulateurs du monde de se mettre autour de la table pour concevoir, non pas la réglementation détaillée, mais les principes d'une réglementation des actifs digitaux à travers le monde qui soit commune. Pour diverses raisons, chacun y est allé un peu de son scénario. Vous citiez l'Europe, il y a effectivement maintenant le MiCA est sorti, mais il y a une réglementation italienne et il y a une réglementation française. Même à l'intérieur de réglementations communes, il y a encore des différences. Donc, je crois malheureusement que ce qui serait souhaitable ne se fera pas. Par contre, je ne suis pas complètement désespéré dans la mesure où je pense que l'on est arrivé maintenant, notamment à cause de FTX, à un niveau de diagnostic dans lequel un certain nombre de gens qui disaient « oui, mais ça vaut quand même », etc., etc., ont pris conscience de ce qui se passait. Et donc, je pense que même si les réglementations seront différentes, je pense que les principes resteront et seront les mêmes. Et par exemple, le cas de l'utilisation des jetons d'un client à l'usage de l'entreprise ou de la personne est quelque chose qui est hors la loi dans tous les pays.
Oui, parce que normalement, la blockchain devait garantir non seulement l'impossibilité de frauder par duplication des bitcoins ainsi minés, mais la propriété, normalement, est effectivement nominative.
Elle était un code, comme vous le savez, pas un nom, mais il y a une chose qui est intéressante, et là j'ai eu des conversations avec une série d'autorités de régulation dans les 2-3 derniers mois, parce que j'organise une conférence à Paris le 3 avril sur la réglementation des cryptos comme président de Droit et Croissance, qui est un institut français dans ce domaine. Nous sommes devant une situation dans laquelle on va interdire de permettre aux plateformes de négoce d'être les propriétaires de l'activité de dépôt. Si vous êtes à la fois la bourse et le déposant, vous avez accès directement aux actifs et vous pouvez manipuler. Il est indispensable que l'activité de dépôt qui existe en matière de titres, etc., bon, c'est Euroclear, c'est tous ces gens-là, ce sont des institutions indépendantes quand il s'agit de titres. Il faut que ce soit la même chose pour les actifs digitaux.
Oui, mais quand on a vu, après les crashs en 2008, la quasi-impossibilité réelle de reséparer les métiers de banque de dépôt et de banque spéculative, on a quelques doutes sur la possibilité d'y arriver.
Non, je pense qu'il faut simplement, et je dirais simplement, c'est un peu facile, je voudrais simplement dire ceci, il existe une architecture qui est l'architecture actuelle de ce que l'on appelle la réglementation des marchés. Et là-dedans se trouve toute une série de principes, et notamment dans le secteur des titres, la bourse n'est pas le déposant. Donc, il faut maintenant adopter les mêmes principes aux actifs digitaux pour que ça ne puisse pas se reproduire. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous ne devez pas pour autant prendre des attitudes différentes entre la banque de dépôt et la banque classique.
Oui, ce qui veut quand même dire donc ici, si ces opérations effectivement se mettent en place, qu'il y aura à partir de là une reconnaissance formelle, réelle, concrète de la cryptosphère.
Il y a une reconnaissance de la cryptosphère à partir du moment où on réglemente. La réglementation européenne qui vient de sortir, qui s'appelle le MiCA, est une reconnaissance de facto puisqu'elle réglemente une réalité. Donc elle reconnaît que cette réalité existe. Donc je dirais aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir si on doit subitement dire que c'est quelque chose d'officiel. Le fait que l'on reconnaisse l'existence ne veut pas dire que l'on valide le marché dont il est question. On laisse aux investisseurs le droit de prendre des décisions, mais on force des éléments de transparence qui font que l'on ne pourra pas frauder comme on a fraudé.
Mais ça fait toujours partie du marché à risque, selon vous.
Ah, c'est tout à fait un marché à risque dans la mesure où, pour moi, et là on revient à la question de base que vous posiez au début, c'est que le Bitcoin lui-même, c'est un Ponzi scheme. Donc, ça veut dire que ça évolue selon l'offre et la demande, et ça n'a pas de contenu.
On a vu, vous le reproduisez dans vos articles d'ailleurs, que Binance souhaitait aider l'Azerbaïdjan, a fait des transactions pour l'Iran, a refusé de clôturer des comptes de Russes dans le cadre des sanctions pour la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il y a véritablement une inconnue. On ne sait pas qui détient quoi et combien. Si ça tombe, des entreprises publiques, des banques ont peut-être investi sans qu'on le sache.
Qui se ressemble, ça semble. Ce ne sont pas particulièrement des pays que je considérerais comme étant au sommet de la gouvernance et de la transparence. C'est intéressant de voir que Binance vient de Chine, c'est intéressant de voir qu'on va dans les Caraïbes, etc. Donc nous sommes bien dans une structure, et c'est ça le concept du métaverse, c'est essayer de créer une structure parallèle qui est hors de contrôle des régulateurs. Et ça, c'est l'enjeu politique numéro un. On ne peut pas laisser s'organiser un monde qui n'a pas de règles et qui sert de produit dérivé du monde qui a les règles, ce qui veut dire que ceux qui suivent les règles sont automatiquement les pigeons et que ceux qui ne suivent pas les règles s'enrichissent. C'est intenable sur le plan éthique, mais c'est aussi intenable sur le plan économique.
Alors, question un peu réelle politique, Georges Jugeux, puisque vous l'approchez. Je reviens à Elon Musk, qui manifestement veut s'appuyer très fort sur la blockchain et les cryptos, et singulièrement probablement sur Ethereum et Bitcoin, dit-il, ou peut-être créer la sienne propre. Beaucoup circulent ces jours-ci sur les réseaux sociaux, vantant l'existence d'une crypto infaillible dans laquelle il faut investir parce que ce sera le boom créé par Elon Musk. Quand on sait qu'Elon Musk est l'allié de la NASA, quand on sait que Elon Musk est le pionnier de l'espace pour le compte aussi des États-Unis et de la fierté américaine, quelle sera l'administration américaine qui cassera les reins ou obligera M. Musk dans ce cadre-là?
Ben, figurez-vous que ça a déjà commencé et que le fait que M. Musk est en état de contrôle dans toute une série de domaines. Mais pour le moment, ce qui se passe, c'est que la sanction d'Elon Musk n'est pas une sanction politique, parce que ce n'est pas du tout le même cas de figure. Nous ne sommes pas occupés de parler d'Elon Musk comme d'un fraudeur. Dans l'ensemble de ses actifs, les cryptos, il en a beaucoup vendu. Vous vous souvenez qu'il avait imaginé qu'on allait acheter des voitures avec des bitcoins. Il a découvert après ça que le bitcoin était un peu fluctuant et que donc à ce moment-là, il ne savait jamais à quel prix il vendait ses voitures. Bon, donc c'est terminé. Par rapport à cela, je dirais que la sanction de marché est énorme. Tesla a perdu 80% de sa valeur. Malgré tous ces éléments-là, je ne sais pas comment le financement de l'acquisition de Twitter s'est fait dans le détail, mais ce que je sais, c'est que ce sont des emprunts faits par M. Musk à titre personnel, financés par des banques, avec mise en gage des actions Tesla auprès des banques comme garantie, parce que M. Musk, en tant que M. Musk, ne pourrait pas obtenir 22 milliards de dollars de prêts sans mettre des actifs en gage.
In fine, est-ce que ce qu'on peut appeler ce crypto-crash va avoir un impact sur, on va dire, l'économie réelle ou l'économie visible, l'économie classique, l'économie qui ne va pas bien? On a annoncé des reprises pour 23. Il semble que tout ça doive être un peu revu à la baisse.
Je serais très heureux si les cryptos étaient un élément de la solution. Je crains malheureusement que les cryptos sont économiquement neutres, ils ne servent à rien. Cet argent est un argent purement spéculatif, il n'est pas investi. Je pense effectivement que nous sommes devant une situation économique extrêmement complexe. Et donc, pour moi, ce qui se passe dans la cryptosphère, malgré toute la visibilité que ça a, c'est une distraction par rapport aux problèmes que nous avons et par rapport au fait que nous allons vivre en 2023 des problèmes de croissance économique, mais aussi des problèmes d'endettement considérables. Et tout le monde qui a un petit peu de jugement par rapport à la situation sait que 2023 sera pire que 2022. Donc, on a encore une année très dure à passer et il faut s'occuper de l'économie. Et puis, pour le reste, les régulateurs vont s'occuper des cryptos. Il faut laisser les cryptos s'amuser entre eux. Ils sont irrelevant, comme on dit, en matière d'économie.
Merci d'être venu nous dévoiler un monde qui n'est pas encore à la portée de tous, Georges Jugeux.
Avec grand plaisir.